Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et réalisé avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le viseur de récits d'opérations, de récits de vie militaire en tout cas, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui en partenariat avec l'école de guerre, j'ai le plaisir d'être avec le lieutenant-colonel Wilfried, donc bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, lieutenant-colonel, il faut le préciser, donc dans l'armée de l'air, et pour nous raconter un souvenir qui est, je crois, extrêmement récent sur, par ailleurs, un terrain qui est extrêmement chaud, en tout cas qui s'est beaucoup réveillé depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, à savoir le Yémen. Alors peut-être racontez-nous d'abord, c'est toujours la question qu'il faut poser aux aviateurs, c'est sur quoi ils volent, ce qu'ils font, et puis ensuite, pourquoi est-ce que vous trouviez au Yémen il y a quelques mois ?
Alors, pour être plus exact, je n'étais pas au Yémen, mais aux Émirats Arabes Unis. Mais effectivement, donc, je suis pilote de chasse sur Rafale depuis un peu plus de 13 ans. Et à cette période, donc, on va parler de faits qui se sont déroulés en janvier 2022 jusqu'à avril 2022. Et j'étais le commandant de l'escadron 1-7 Provence aux Émirats Arabes Unis sur cette période. Et j'en profite pour saluer tous mes anciens provençaux au passage.
C'est où le
1-7 Provence? C'est sur la base aérienne 104 d'Al Dhafra, donc aux Émirats Arabes Unis. C'est une base française.
Mais c'est, l'escadron est fixé là?
Exactement. L'escadron est basé, l'escadron Rafale est basé depuis un peu plus d'une dizaine d'années sur place.
Il a gardé la Provence dans le nom, mais c'est tout quoi.
Alors, en fait, les traditions du Provence ont été récupérées à partir de 2016. Avant, c'était le 330 Lorraine, mais comme vous devez peut-être le savoir, il y a eu une réforme des escadres il y a quelques années. Et donc, pour harmoniser tout ça, la 30e escadre et le 330 est resté à Mont-de-Marsan. Et les traditions du Provence, qui étaient alors basées à Saint-Dizier, ont migré vers les Émirats Arabes Unis.
C'est compliqué la géographie. La Lorraine était à Mont-de-Marsan, la Provence à Saint-Dizier et maintenant aux Émirats Arabes Unis. Bon. Et donc en fait, vous y étiez en permanence, qui du coup est assez pratique. C'est pas vraiment une OPEC, c'est pas un déploiement, c'est pas un mandat. C'est vous étiez à proximité directe en cas de besoin. Et là, il y a eu besoin.
Effectivement, en fait, l'escadron de chasse donc fait partie d'un ensemble, c'est-à-dire les forces françaises aux Émirats Arabes Unis, qui sont basées donc des forces pré-déployées en permanence. Et nous avons eu donc effectivement à agir dans le cadre des accords de défense qui ont été signés, si je ne me trompe pas, en 1995, puis remis au goût du jour en 2008, et qui étaient donc pour la première fois mis en œuvre en 2022.
Donc des accords de défense qui impliquent, parce qu'on sait que donc il y a eu une grande opération de l'Arabie Saoudite et des Émirats au Yémen dans le cadre de la guerre civile au Yémen, qui a notamment passé par des frappes aériennes. Est-ce que c'était dans ce contexte-là? En même temps, on sait que les Houthis ont aussi essayé de répondre, notamment avec des missiles à plus ou moins longue portée. Donc en quelque sorte, est-ce que vous accompagnez depuis le début ou est-ce qu'il y a eu un moment où la présence et les avions français se sont déclenchés suite à un événement?
Non, alors là on est bel et bien, effectivement, vous l'avez rappelé, le contexte, donc cette guerre depuis 2014-2015 avec la coalition arabe, mais essentiellement menée par l'Arabie Saoudite avec le concours des Émirats Arabes Unis donc au Yémen. Là on s'inscrit vraiment en fait donc à partir de 2022 dans le cadre de ces accords de défense qui étaient de protéger uniquement le territoire émirien. Et en fait, ce qui s'est passé, pour mettre un petit peu de contexte derrière tout ça, c'est que en décembre 2021, les Émirats Arabes Unis, en fait, à travers la brigade des géants, reprend un petit peu le pas sur le sol yéménite et donc au détriment des Houthis. Et ce qui fait que
la brigade des géants, c'est une de leurs brigades. Hein.
C'est une milice soutenue par les Émirats arabes unis. Et donc ce soutien donne l'avantage à la coalition arabe contre les Houthis. Et donc, en fait, à partir de janvier 2022, les Houthis décident en fait de punir, entre guillemets, les Émirats Arabes Unis pour ce soutien et d'attaquer pour la première fois le territoire émirien le 17 janvier. Mais on va pouvoir y revenir si vous le voulez.
Oui, parce que rappelons que c'est pas bien loin, hein, c'est d'un côté à l'autre du Golfe. Et du coup, comment... Donc vous êtes sur place. Comment est-ce que ça se déclenche ? C'est-à-dire quand est-ce que vous apprenez qu'il y a des frappes et parce que je n'ai plus en tête exactement les frappes de janvier 2022, ouais. Ça ressemble à quoi ?
Effectivement, alors le 17 janvier, en plus, c'est un jour un peu particulier pour nous, puisqu'en fait, on recevait le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Mill, et donc on était en pleine préparation sur la base aérienne de sa venue qui devait se dérouler dans l'après-midi. Et en fin de matinée, en fait, depuis les fenêtres de mon bureau, moi, je peux apercevoir un panache de fumée noire qui vient à peu près du nord de la base aérienne, donc qui correspond à la ville d'Abu Dhabi. Sur le coup, c'est vrai que je n'y ai pas spécialement porté attention. J'ai pensé plutôt éventuellement à un incident industriel ou à un rejet de pétrole brûlé ou ce genre de choses. Et puis, vers les coups de 13h, juste avant la rencontre avec le CMAE, effectivement, mon commandant de base aérienne m'apprend que quelques heures avant, il y a eu une attaque des Houthis sur les Émirats Arabes Unis. Et donc, on se retrouve dans ce contexte-là.
C'était quoi ? C'était des missiles non portés ?
Ça a été une attaque extrêmement bien coordonnée, puisqu'en fait, ils ont à la fois fait une attaque concertée de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones. Et donc, ce 17 janvier, les missiles balistiques ont été interceptés, les drones ont été également interceptés, mais les missiles de croisière ont tapé deux sites donc dans Abu Dhabi, le centre pétrolier qui se trouve dans la zone de Moussafa et le terminal de l'aéroport, le nouveau terminal de l'aéroport d'Abu Dhabi qui était non occupé puisque il n'était pas encore mis en service.
Et c'est que, donc ça c'est c'est un site industriel et un chantier, c'était prévu à votre avis ou c'est juste qu'ils sont plantés ?
Alors non, je pense que ils sont extrêmement affûtés, si vous me permettez le terme, en termes de renseignements, puisque rien n'a été fait au hasard. Au niveau du site pétrolier, donc malheureusement, il y a eu deux victimes de chauffeurs de camions, puisqu'en fait, ils ont visé la partie de la raffinerie qui permettait l'approvisionnement en carburant de tout Abu Dhabi. Donc vraiment ciblé au niveau de cette raffinerie. Et pour l'aéroport, ils savaient très bien qu'il était non occupé, en fait, on va dire, dans la doctrine des Houthis, puisqu'ils ont mené pendant quelques années en amont des frappes en Arabie Saoudite. Ils n'ont pas vocation à spécialement cibler la population, mais plutôt à cibler des sites industriels ou des sites militaires. Donc je pense que le ciblage de l'aéroport dans cette partie-là a été fait à dessein et de ne pas cibler le terminal qui est utilisé tous les jours.
Donc, il y a le chef d'état-major qui arrive pour visiter. Il n'est pas déçu de la visite. Mais d'ailleurs, c'est une question. Il est venu quand même.
Effectivement, il est venu quand même. Donc, reçu par Al Indien ou le Comfort FFAU, donc l'amiral Fayard à l'époque.
Donc, l'amiral Al Indien, c'est l'amiral en charge de la zone océan Indien.
Exactement. Et donc, dans un premier temps, puisque bon, on manque encore un peu d'informations à ce stade-là. Cette aide-là, même si on sait qu'il y a effectivement eu une attaque, mais on n'a pas encore toutes les infos que je vous ai décrites, des missiles balistiques, des missiles de croisière et des drones. On sait juste qu'il y a eu une frappe sur Abu Dhabi. Donc, en tout cas, moi, pour la partie qui me concernait, je fais avec mon commandant de base ma présentation tout à fait standard. Et après,
on ne va pas changer le PowerPoint.
Et j'imagine qu'effectivement, à l'issue, il y a eu certainement quelques échanges entre l'amiral Fayard et le général Mill sur la question, mais je n'en ai pas été témoin.
Ouais. Et alors, comment ça s'est... Bon, après, il est reparti. Enfin, ce n'était pas non plus l'objectif de la visite.
Oui, non, c'était juste une anecdote que je voulais vous signer.
C'est intéressant. J'imagine qu'en plus, un truc comme ça, quand on est à Abu Dhabi, on le voit venir longtemps en avance, on prépare tout très longtemps à l'avance. Le missile de croisière, 2 heures avant, Ouais, c'était pas forcément sur le planning.
Non, effectivement, c'était pas anticipé du tout. On peut quand même effectivement souligner l'extrême réactivité des Émiriens, capables justement quand même d'intercepter ces missiles balistiques et ces drones. Hein, même si.
Parce que rappelons que missiles balistiques sont des missiles donc qui sont lancés au départ et ensuite qui suivent une trajectoire balistique, donc inertielle, etc. Les drones, c'est les drones. Maintenant, on les connaît bien, notamment du fait de l'Ukraine, les drones Shahed. Les missiles de croisière, c'est des missiles qui sont donc propulsés tout le long, quoi.
Exactement. Donc effectivement, on peut imaginer que les Émirats n'avaient pas été ciblés ces dernières années, enfin en amont de 2022.
Ils
avaient ciblé l'Arabie Saoudite, mais je pense qu'il y avait peut-être encore des problèmes de portée également. Même si, comme je vous l'ai souligné, le fait que la brigade des gens ait repris un petit peu du poids sur le terrain a certainement conduit à ces attaques. Mais effectivement, je pense qu'ils ont évolué aussi dans leur technologie, puisqu'il faut voir qu'il y a plus de 1500 km entre les sites de départ des missiles balistiques ou de ces drones, etc. Donc il faut être en mesure, effectivement, de posséder cette technologie. Après, il est certain, c'est que tous ces drones ou missiles de croisière passent d'abord par l'Arabie Saoudite, mais qui est vaste et forcément avec une couverture radar très limitée, ce qui leur permet effectivement de ne pas être détectés avant d'arriver sur le sol émirien.
Ouais. Et ensuite, comment ça s'insère donc, c'est-à-dire les Émiriens, ils ont des forces, hein, ils ont du matériel, notamment français, mais pas que, ils ont du personnel, et ils étaient déjà bien engagés. Oui. À quel moment est-ce que les Français prennent leur place dans tout ça?
Alors, tout d'abord, effectivement, donc je vous ai signalé ces attaques du 17 janvier. Donc forcément, les Émiriens ont répondu, comme je vous l'ai dit, par leur défense solaire. Ont mis tout de suite en place des patrouilles de défense aérienne pour couvrir leur territoire. Donc généralement, il y avait deux patrouilles de chasseurs, donc quatre chasseurs en l'air en même temps, H24, avec des avions ravitailleurs pour pouvoir assurer cette protection. Donc cette première semaine, ils ont commencé par un petit peu restreindre leur espace aérien. Pour la partie française, on ne pouvait s'entraîner que sur la partie la plus au nord du pays. Ils avaient coupé la voie aérienne qui allait vers l'Arabie Saoudite pour pouvoir avoir un contrôle le plus absolu sur leur espace aérien. Et puis, les attaques ont continué puisqu'il y a eu une deuxième attaque le 21 janvier. Sachant que ce même jour, donc suite à cette deuxième attaque, en tout cas connue, passée dans la presse, l'ambassadeur de France aux Émirats Arabes Unis s'est vu demander par les autorités émiriennes de déclencher les accords de défense. Donc effectivement, moi le 21 janvier au soir, mon commandant de base m'appelle vers 19h pour me dire « Wilfried, prépare tes troupes, on attend le feu vert politique de la présidence française, mais on va intervenir pour protéger les Émirats. »
C'est une première de déclencher ces accords ?
C'était effectivement une première. Depuis 1995, ils n'avaient jamais été déclenchés. Oui.
D'accord. Et alors, du coup, ça ressemble à quoi Parce que vous êtes prépositionné, vous faites vos entraînements, mais entre Français, j'imagine que de temps en temps, vous faites des choses avec les Émiriens, mais c'est autre chose de devoir s'intégrer dans un dispositif de défense aérienne.
Effectivement, alors on est prépositionné où effectivement, comme vous le soulignez, on fait de l'entraînement, mais également on est en soutien aux opérations de l'opération Chamal, par exemple, ou d'autres opérations qui peuvent avoir lieu dans la région.
Donc Chamal, rappelons, c'est en Irak et en Syrie, notamment contre Daesh.
Exactement, mais effectivement, la plupart du temps, nos avions sont non armés pour l'entraînement. Et donc effectivement, quand le commandant de base m'appelle ce vendredi soir, ben moi je répercute l'ordre et dès le lendemain matin, en fait, nos sept avions sont armés de missiles Mika, prêts à répondre. Également des pods à ce moment-là du pod Damoclès que nous avions sur place.
Donc un pod, c'est quelque chose qu'on met dans un des emplacements qui sont pas ça pour les rafales.
Le pod Damoclès est en fait essentiellement normalement à la base un pod qui permet de faire de l'illumination de bombes guidées laser, mais également qui peut permettre de reconnaître, de surveiller des cibles au sol. Ce n'est pas notre dernier pod, et donc à ce moment-là, en fait, on avertit, et de toute façon le centre de conduite des opérations, de planification de conduite des opérations à Paris suit bien sûr ça en temps réel. Et donc on va nous apporter en fait rapidement la semaine suivante des pods Talios, qui est le dernier pod qui équipe le Rafale et qui, lui, permet d'avoir une qualité d'image jour et nuit bien plus importante, puisqu'en fait, on va avoir besoin de ce pod pour pouvoir identifier des objets, notamment de nuit, pour pouvoir faire l'identification. Mais on pourra en reparler plus tard. Le but, comme je vous le disais, donc nous, en fait, on se tient prêt. Donc dès le samedi matin, au bout de quelques heures, tous les avions sont armés. Et donc, rapidement, dans l'après-midi, on a une réunion à laquelle mon commandant de base me fait assister avec les autorités émiriennes. En gros, leur général, leur défense aérienne, qui nous met au fait de ce qui s'est passé tout au long de la semaine. Donc, il s'avère qu'il y a eu quelques attaques supplémentaires qui ne sont pas parues dans la presse.
Parce qu'elles ont été interceptées.
Elles ont été effectivement interceptées par les chasseurs émiriens. Donc, à ce moment-là, on apprend qu'ils ont déjà abattu quelques drones avec leur Mirage 2000-9. Et on a
la qualité française.
Exactement. Et on a l'opportunité, quelques heures après cette réunion, de voir quelques pilotes émiriens qui ont déjà participé durant la semaine aux opérations venir à l'escadron et nous briefer sur leur tactique et sur la réalité du terrain, ce qui se passe depuis une semaine aux Émirats Arabes Unis suite aux attaques des Houthis.
Donc, en gros, c'est quoi ? Enfin, ce qui se passe, c'est qu'ils patrouillent dans les airs et quand ils voient un truc qui passe plus ou moins vite, lâcher un missile dessus pour l'intercepter, quoi.
Alors, c'est effectivement assez bien résumé. Pour aller un peu plus dans le détail, il faut voir que les Émiriens ont une couverture incroyable au niveau radar de leur territoire. Après, ils sont...
Particulièrement incroyable.
Oui, particulièrement incroyable. On va y revenir après sur des exemples, des anecdotes. Ils ont beaucoup de systèmes solaires pour protéger, que ce soit Dubaï, Abu Dhabi, leur site militaire. Mais il faut voir qu'ils ont beaucoup de sites qui sont très très proches de la frontière. Et donc, vu les menaces qui sont des missiles de croisière, essentiellement pour ces sites-là, ou des drones, peuvent rapidement en fait, atteindre leur cible, même si les drones n'évoluent pas très vite. Et donc, en plus de ces systèmes solaires, il faut des chasseurs pour pouvoir en fait, aller intercepter la menace au plus tôt. Et donc, c'est ce qu'ils font. Et forcément, c'est extrêmement consommateur hein, de faire voler des avions de chasse H-24. Et donc, c'est pour ça que rapidement, ils ont fait appel aux partenaires français pour pouvoir les aider. Et,
oui, parce qu'en plus, c'est la différence avec la défense solaire, c'est que votre nombre de missiles n'est pas non plus infini sous les ailes. Donc, ça limite.
Effectivement.
Saturer ce type de dispositif.
On peut saturer. Après, l'intérêt aussi, donc comme je vous disais, ils ont une couverture assez incroyable, une capacité de détection, mais encore faut-il après aller identifier. Et donc, sur le système de défense aérien, solaire, émirien, ils vont être capables de détecter des mobiles, mais de ne pas savoir est-ce que c'est un drone. Alors, missile de croisière, ça évolue quand même suffisamment vite. On est de l'ordre de 500 km/h. Donc, forcément, on ne va pas avoir de doute, mais il faut voir que leur système est capable de détecter des voitures rapides sur l'autoroute, des bateaux à moteur ou des bancs d'oiseaux, ce genre de choses.
Ce serait bien de ne pas leur balancer une batterie de Patriot dessus.
Exactement. Et donc, tout l'intérêt, effectivement, de ces chasseurs, de pouvoir être le premier effecteur et aller identifier... s'il est possible, faire engager également la cible par le chasseur. Et puis, si ce n'est pas possible, effectivement, si ça se rapproche d'un site protégé, faire engager les systèmes solaires. C'était un peu d'ailleurs la doctrine, c'est-à-dire que notamment pour les villes d'Abu Dhabi ou Dubaï, etc., leur doctrine était plutôt d'engager le solaire si on en arrivait là, en fait. Et les chasseurs étaient plutôt pour intervenir au plus tôt proche de la frontière.
Et du coup, vous en avez vu, vous en avez intercepté, alors, vous, des missiles d'outils ?
Alors du coup, pour la partie française, non, nous n'avons pas eu l'occasion, même si on a mené effectivement pas mal d'interceptions. Pour ma part, moi, j'ai pu mener
ça
deux...
Ça veut dire quoi, mener des interceptions ?
Des interceptions, c'est-à-dire partir reconnaître effectivement ce que nous dit le contrôleur. Alors, on n'en a pas parlé, mais avant de décrire le type de mobile qu'on a pu intercepter, c'est qu'on était bien... dans une chaîne de commandement émirienne, ce qui était vraiment une particularité. Donc, avec un contrôleur émirien qui nous donnait ce qu'on appelle la picture, c'est-à-dire ce qui se passe, ce que le contrôleur voit sur ses scopes radars. Et pouvaient nous donner l'ordre d'engager. Et donc, dans ces structures-là, on avait ce qu'on appelle un red card holder, c'est-à-dire quelqu'un qui a un carton rouge. Et donc, on était bien dans ce qui était un peu une première, dans l'idée de laisser faire les Émiriens. Et on avait une autorité française dans ce centre de commandement émirien qui était là pour dire stop si finalement... on se rendait compte qu'on n'allait pas dans les règles d'engagement ou dans les accords qu'on avait signés au préalable avec eux.
Il y a un Français dans le centre de contrôle qui dit « ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon ». Et là,
qui dit contre... surtout « non, ça c'est pas bon en fait ». Justement, on leur laisse la liberté de nous engager. En revanche, si la situation n'est plus conforme, voilà, il lève son carton rouge et dit « non, stop, vous n'engagez pas ».
Oui, après, et, ils n'allaient pas vous envoyer au Yémen non plus. Donc,
Non, pas du tout, mais ne serait-ce pour, en fonction de... la confiance était vraiment entière. Hein, même si on n'a pas eu à engager le feu, il n'y a jamais eu d'intervention de ce fameux Red Card Holder. Hein, mais je tiens à le spécifier parce que quelques semaines après, les Américains sont arrivés également en soutien des Émiriens avec leur F-22. Et leur doctrine n'était pas du tout la même. C'est-à-dire que les Américains n'ont pas voulu se mettre sous la coupe des Émiriens en termes de décision, d'engagement.
Pas très très étonnant, mais bon, c'est intéressant nonobstant.
Voilà, et donc du coup, pour en revenir au type de mobile, donc pour ma part, moi je suis parti en intercept.
Ça doit être bien le F-22 pour ce genre de mission.
Ouais, c'est j'imagine, mais alors honnêtement, on faisait exactement...
Parce que le F-22, précisons aux auditeurs que c'est vraiment un avion de supériorité aérienne, c'est pas un bombardier comme le F-35, c'est un avion qui est là vraiment pour maîtriser toutes les menaces qui sont dans le ciel et qui... voit très loin et qui tape très très loin.
Effectivement, et c'était bel et bien la mission. La mission était bel et bien de mener donc des interceptions, c'est-à-dire d'aller identifier, puis engager au besoin des cibles aériennes. Et donc, pour ma part, je suis parti en interception une fois au petit matin, en plein brouillard, ce qui rendait difficile l'identification sur un 4x4 qui roulait à plus de 160 km/h sur l'autoroute, mais que les Émiriens avaient détecté sur le scope et que j'ai pu confirmer également à l'aide de mon radar AESA du Rafale.
Donc c'est le, pour être sûr c'est... que ce soit pas un drone un peu...
Exactement, puisque en fait...
Ils volent si bas les drones que...
Oui, exactement, et également dans les tactiques des outils, pour s'adapter, ils faisaient survoler les missiles de croisière ou les drones au-dessus des autoroutes à très basse altitude, sachant pertinemment que nos moyens allaient donc détecter ces éventuelles voitures, être un peu noyées, on va dire, dans la masse éventuellement du trafic, parce que effectivement, comme je vous le disais, les moyens sont tellement perfectionnés que si on ne filtre pas, on est capable effectivement de détecter des voitures sur une autoroute avec nos radars.
Ils sont forts quand même, parce qu'aller taper à 1500 km de distance en étant capable de suivre le tracé d'une autoroute, enfin, je veux dire, l'image des outils comme cette guérilla qui est montée en capacité, certes, mais bon, qui est dépendante. Enfin bon, c'est quand même un niveau technologique assez impressionnant, ça.
Ils ont fait preuve effectivement de beaucoup d'adaptation. Donc, comme je vous dis, au début, ça arrivait plutôt de manière assez standard par le sud du pays, des Émirats, en provenance de l'Arabie Saoudite. Donc, assez simplement, les Émiriens avaient plutôt positionné leur patrouille à cet endroit-là. Et puis, un peu plus tard, ils se sont fait surprendre puisqu'en fait, les outils ont fait suivre une ligne aérienne qui passait par l'ouest des Émirats, puis revenir plein cap est pour rentrer dans le territoire émirien. Et là, c'était effectivement une surprise un peu tactique. Et du coup, ils se sont rendus compte qu'il fallait multiplier le nombre de patrouilles en l'air. Et c'est à ce moment-là, donc c'est au cours de cette première semaine, ils se sont dit qu'il faut qu'on fasse appel également aux Français et aux Américains pour pouvoir répondre à la menace qui était multisectorielle.
Et vous avez été beaucoup mis à contribution ou c'était vraiment un dépannage?
Non, on a été très engagé hein, puisque finalement à partir du 25 janvier, on menait donc 7 jours sur 7, 6 heures de patrouille par jour. Donc 6 heures sur zone, ce qui correspond à peu près à 7 heures à peu près de vol.
Donc nous, vous étiez toujours en l'air. Il n'y avait pas de. Vous êtes à prendre l'alerte et vous pouvez intervenir.
Non, pour le coup, effectivement, on n'a pas mené de ce qu'on appelle de QRA, donc Quick Response Alert. En gros, des avions au sol qui sont capables de décoller au coup de sifflet. Bref, pardon. On ne l'a pas fait, les Émiriens en avaient déjà en fait. Les Émiriens avaient, comme je vous l'ai dit, le solaire, des patrouilles en l'air, des patrouilles en alerte au sol prêtes à décoller si vraiment quelque chose se rapprochait typiquement d'Al Dhafra, d'Abu Dhabi ou de Dubaï. Et donc voilà, nous on était utilisés pour, comme effecteurs supplémentaires pour couvrir une partie du territoire supplémentaire. Et donc ça, comme je vous l'ai dit, à 6 heures par nuit. Puisque rapidement, la première semaine, pour se faire entre guillemets un petit peu la main, ils nous ont mis sur des créneaux sur 6 heures de jour. Et puis rapidement, au bout moins d'une semaine, on avait le créneau minuit, 6 heures du matin, le plus sympathique. Mais qui nous aura permis de voir de jolis levées de lune et des beaux levées de soleil.
Donc, voilà. Et donc, jamais vous avez vu passer, jamais vous avez engagé?
Alors non, malheureusement, je ne sais pas si on peut dire malheureusement, mais en tout cas, comme je vous dis, vu qu'on couvrait 6 heures par jour, enfin, et plus particulièrement de nuit, après les attaques, comme je vous dis, ont été beaucoup la première semaine où on n'était pas encore engagé, les accords de conférence n'étaient pas encore engagés. Après, il y a eu une troisième attaque qui a eu lieu le 24 janvier, pardon. Et puis ensuite, on a eu de nouveau des attaques au niveau du 30 janvier et du 2 février. Donc en fait, ça, au fur et à mesure du temps, les attaques sont un peu plus espacées. Et donc, ce n'est pas tombé sur des créneaux où on était en l'air.
Et c'était des grosses salles, enfin, c'était plusieurs dizaines de mobiles ou c'était plus petit?
Ils ont varié, c'est-à-dire que typiquement, ils ont refait une attaque concertée, alors ce coup-ci, missiles balistiques et drones. Donc, dans la nuit du 24 janvier, où là, ça a été assez médiatisé parce que les missiles d'interception, donc les SAD, qui sont des dispositifs à la base américains, mais vendus aux Émiriens, spécialement dédiés pour les missiles balistiques, ont tiré et sont passés au-dessus de la ville d'Abu Dhabi. Donc forcément, c'était au petit matin, toute la ville a été un peu réveillée parce que forcément, quand le missile passe supersonique, ça fait un gros bang. Et puis quand il intercepte le missile balistique, on a de nouveau un bang. Donc ça a été assez marquant. Et après, ils ont mené des attaques où on est passé peut-être à 6 à 10 drones. Voilà, et après, je vous dis, ça s'est calmé.
C'est marrant parce que maintenant, si ça dit drone d'origine iranienne, c'est un quart d'heure de nuit normale en Ukraine. Quoi.
Mais... Effectivement, oui. En parlant de l'Ukraine, c'est-à-dire que aussi, ça m'y fait penser. C'est-à-dire que donc, le 17 janvier, quand tout ceci arrive, forcément, ça met un peu en ébullition le CPCO, donc le Centre de Planification et de Conduite des Opérations, forcément l'armée de l'air. Comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de moyens qui arrivent aux Émirats. On nous renforce en radar EISA, donc les derniers radars qui équipent. Qui équipe le Rafale. On nous renforce en pod Talios, dont j'ai déjà parlé. On nous renforce un petit peu aussi en équipage pour pouvoir assumer ces missions spécialement de nuit qui sont assez, assez fatigantes dans la durée. Et puis, le 24 février, forcément...
On passe à autre chose.
On passe à autre chose.
Donc, enfin, les outils, pas forcément, mais...
Alors, pas nous, au niveau des Émirats. Nous, on reste effectivement dans cette même dynamique... A toujours effectué les missions, mais on nous retire un peu des équipages. Il faut effectivement avec un petit peu moins l'effort est rebasculé vers l'Ukraine à ce moment-là.
Et comment est-ce que ça va s'achever cette séquence? C'est-à-dire ça va durer combien de temps et quand est-ce qu'ils vont vous laisser dormir la nuit?
Et donc cette séquence s'achève le 1er avril parce que effectivement une trêve est trouvée entre les Houthis et les Émiriens. Dont je ne connais pas les tenants, les aboutissants, mais donc ça commence par deux mois de trêve de signer. Donc tranquillement, nous on commence à déséquiper quelques avions, on reprend un petit peu l'entraînement. Et puis une deuxième trêve sera re-signée deux mois plus tard pour arriver à un cessez-le-feu quelques mois plus tard. Voilà, donc. Au niveau de l'escadron, c'est toujours tenu pendant quelques mois en mesure d'eux. Et puis voilà, tout s'est arrêté ainsi.
Puis retour à la vie normale aux Émirats.
Exactement. avec cette particularité sur cette opération qui était loin d'être la première pour moi, mais qui correspond en fait en revanche à une première, de se trouver en opération avec sa famille, puisque comme vous l'avez souligné, j'étais là-bas en mission de longue durée, donc avec femme et enfant. Et c'est vrai que c'est un peu une particularité de mener en fait des opérations, mener la guerre entre guillemets, alors que on est en train de protéger une zone et que 60 à 100 km derrière nous avons notre famille. Donc c'est vrai que c'était un petit changement psychologique à avoir, qui a tendance finalement à pousser vers l'excellence.
Ouais, ce que je veux dire, c'est ça aide ou ça aide pas ?
Pour le coup, ayant en plus, étant parfaitement au fait de ce qui se passait, parfaitement au fait des capacités émiriennes et de nos capacités, j'ai jamais douté. Voilà, il ne m'est jamais traversé l'esprit de faire rentrer ma famille en France. Ce qui est certain, c'est qu'on y pense quand même. Parfois, ces missions, en fait, la difficulté de ces missions de protection, donc ce qu'on appelle de CAP, de Counter Air Patrol, c'est des missions où parfois il ne se passe rien pendant longtemps et on attend. On utilise son système au maximum pour détecter, pour être en mesure de réagir à temps, mais on a le temps aussi un peu de réfléchir. Et donc forcément, on y pense un petit peu, mais comme je vous dis, je pense qu'avant tout, enfin en tout cas moi, ça a été mes pensées, c'est voilà, de pousser vers l'excellence, c'est dire je peux pas me permettre de ne pas être suffisamment alerte et de ne pas bien appliquer les procédures et bien réagir à temps pour mener cette interception et de ne pas louper ma cible.
Ouais, mais c'est intéressant parce que ça, il y a aussi un esprit. Enfin, je sais pas quand vous êtes sur, je sais pas si vous avez fait Barkhane ou l'Afghanistan.
Oui, tout à fait.
Bon bah, vous partez, vous êtes un mandat, c'est 4 mois, vous êtes à N'Djamena ou ailleurs, et vous êtes entre collègues, entre camarades, H24. Enfin, il y a un esprit d'équipage, quoi, en quelque sorte. Là, vous rentrez chez vous le soir, c'est un peu différent.
Oui, alors effectivement, alors du coup, ce que l'on faisait, puisque comme je vous l'ai signalé, les horaires étaient quand même un petit peu atypiques, donc on se mettait sur base avant de décoller, et on essayait de dormir quelques heures. Donc ce qui est toujours un petit peu délicat, hein, de trouver le sommeil vers 19h. Donc pour certains, ceux qui en ont besoin, on a des produits pour nous aider à nous endormir ou à nous réveiller ou à nous tenir alerte.
Mais c'est très intéressant ça, vous avez des petits somnifères.
On a effectivement,
qui, pour autant, vous vous rendre brûlant.
Non, en fait, c'est toute la difficulté. Alors personnellement, je n'en prends pas, mais parce que j'ai le sommeil assez facile. Mais c'est des produits qui permettent de vous faire dormir, c'est à peu près 6 heures. Et donc du coup, bah, il faut le prendre suffisamment tôt par rapport, en fait, il faut connaître son heure de réveil et le prendre suffisamment tôt pour pouvoir s'endormir. Et puis après, on peut prendre ce qu'on appelle de la caféine LP, qui permet en fait d'avoir un apport en caféine très dilué dans le temps, mais très long, et de garder une attention importante tout au long du vol.
Parce que oui, vous n'avez pas la machine à café dans le cockpit.
Non, on n'a pas la machine dans le cockpit. Donc ça, c'est des petites spécificités.
Cela dit, c'est intéressant. J'imagine qu'il y a une époque où les pilotes devaient avoir un grand thermos. Ils devaient en consommer tout au long du vol pour tenir.
Ouais, sur avion de chasse, ça me paraît un peu compliqué. Mais effectivement, en tout cas, c'est ce type de produit. Moi, j'en ai connu l'arrivée durant ma carrière. C'est effectivement au début de ma carrière. Ça n'existait pas. Après, il est vrai aussi que...
C'est fascinant parce que c'est extrêmement délicat. La pharmacopée, les choses qu'on donne à des gens comme vous, quoi, des militaires à qui on met les organismes dans des conditions extrêmes de tous les points de vue. Donc évidemment qu'il faut des choses...
Alors il y a tout un protocole. Hein,
bien sûr, c'est très intéressant de voir comment est-ce qu'on peut donner des choses et que pour autant ça reste cadré. C'est tout à fait fascinant les limites et ce qu'on s'autorise et les limites qu'on se donne là-dessus.
Mais effectivement, on s'est rendu compte de toute façon que ces 20 dernières années, on a mené de plus en plus la guerre de nuit. Donc forcément, on a eu besoin de faire appel à ce type de produit. Et puis on a surtout aujourd'hui, et notamment c'est particulièrement vrai avec le Rafale, c'est des avions et des missions qui durent de plus en plus longtemps. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé sur Mirage F1 CR, On était limité à peu près à 6 heures de vol pour une question de récupération d'huile moteur.
Donc, c'était pas le carburant, c'était l'huile.
C'était l'huile. Oui, parce qu'en fait, le carburant, à partir du moment où on effectue des ravitaillements en vol, on se retrouve pas limité.
Donc, par contre, on peut pas faire la vidange en vol.
Ouais, voilà. Donc, du coup, pour le F1, c'était 6 heures. Le Mirage 2000, c'est un peu plus. J'en ai jamais fait, donc je rentrerai pas dans les détails. Mais effectivement, on arrive avec le Rafale où on a plus ce problème typiquement d'huile. Et donc, on peut faire des vols extrêmement longs. Hein. Le plus long vol, on est sur un peu plus de 12 heures de vol.
Micro, on peut dire, il y a un chef d'escadron qui racontait l'opération Hamilton, donc les frappes sur la Syrie, où il racontait que c'était très très long parce qu'il s'agissait de partir de la France, aller jusqu'à la Syrie, c'était après le massacre de la Ghouta, je crois, et ensuite revenir, et c'est quand même des durées assez inhabituelles.
Ouais, effectivement, on est sur des vols qui durent à peu près 8 heures de vol, mais comme je vous dis, avec le Rafale, c'est quasiment devenu commun, c'est-à-dire que typiquement, moi j'ai eu l'occasion de faire Harmattan dans les premiers jours et donc on est parti.
Harmattan, c'était la Libye.
C'était la Libye en 2011. On est parti de Saint-Dizier, on revenait à Saint-Dizier, donc même chose, on était sur des vols de l'ordre de 8 heures. Après, il est vrai, pour rien vous cacher, j'ai moins de fatigue en 8 heures de vol sur un Rafale que je n'en avais en 4h30 ou 5 heures sur Mirage F1. C'est lié essentiellement, on va dire, au confort, le siège est incliné, on a des repose-bras, et puis également lié à des performances bien supérieures, et ces vols longs disent ravitaillement en vol, et quand on a un avion un petit peu moins motorisé, c'est toujours des phases extrêmement délicates, donc qui demandent beaucoup d'attention, un stress important, puisque si on n'arrive pas à ravitailler, ben, la mission est un échec. Et donc avec le Rafale, ça reste quand même beaucoup plus facile, et donc du coup, on va dire moins de stress, donc moins de fatigue. Mais comme on abordait ce point-là, voilà, le Rafale est arrivé à un stade où il n'est plus, lui, limitant. Et c'est bien les équipages et les hommes qui volent dedans, et les hommes et les femmes qui font que on arrive à des limites dans un cockpit relativement étroit, et on se pose des problèmes physiologiques, se nourrir également, qui fait qu'il devient délicat de faire des vols au-delà de
10-12 heures. Vous pouvez manger en vol?
Oui, bah bien sûr, il est important de partir, donc on part avec on va dire ce qu'on appelle des flybox, donc des petites boîtes qu'on emmène en l'air, donc qui sont spécialement préparées, donc ça a été un combat de longue haleine au sein des escadrons,
c'est
de
pas
concert
le
avec le soutien
pour le sandwich jambon beurre.
C'est surtout pas français, comme mais... ce qu'on a pu nous donner au tout début, parce que c'est par manque de dialogue, quand on se retrouve avec une ration de combat à faire chauffer, non, ça ne marche pas dans un Rafale, mais effectivement après c'est réfléchir à un sandwich qui ne fait pas beaucoup de miettes, quelque chose qui va être facile, réflexion sur la bouteille avec des bouchons type sport pour pas prendre le risque de perdre le bouchon, ce genre de choses, donc c'est assez réfléchi à base de barres commando, donc on a effectivement de quoi se sustenter, ça reste limité, et si on doit faire plusieurs repas, ça devient quand même compliqué en fait, par manque d'espace à l'intérieur du cockpit.
Et au bout de 8 heures, on est quand même heureux de rentrer à la maison.
On
aussi,
est heureux,
le Rafale,
on est effectivement heureux de rentrer quand même.
Merci beaucoup, Quentin Godet-Fried.
Merci à vous.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.